Et vous écoutez France Culture. Un livre n'est rien de plus qu'une trappe située quelque part en soi. Claro. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit donc ce soir le romancier, traducteur, éditeur et critique littéraire Claro, et ce à l'occasion de 3 parutions, celle de son dernier roman Hors du charnier natal chez Inculte et celle de 2 traductions Animal Machine d'Eleni Siciliano chez Actes Sud et La Maison des Épreuves aux éditions de l'Ogre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Bonsoir Claro.
Bonsoir.
Mais c'est vous l'ogre en définitive, puisque quand on voit la somme d'activités que vous pratiquez, on a l'impression d'un appétit inextinguible en matière de texte et de littérature. Vous avez une dimension comme ça, d'ogre?
Ogre, je sais pas, c'est plutôt les éditeurs qui sont des ogres, j'ai l'impression. Mais non, j'essaie de pas me faire bouffer par les livres.
Vous essayez, vous y arrivez?
Oui, c'est facile.
Bon, ben vous allez nous donner votre méthode, parce qu'apparemment la chose n'est pas à ce point évidente. Bonsoir Paco Ptialmont.
Bonsoir François.
Alors, vous êtes d'accord pour dire que Christophe Claro est un ogre?
Et on dit pas Christophe.
Voilà, c'est un texte. si vous m'écoutiez.
Ah, c'est ou alors c'est un papa pélican qui se laisse dévorer
par ses
enfants éditeurs. C'est-à-dire qu'il donne comme ça une chair de mots, poésie, roman, fiction, traduction, blog. Donc ses lecteurs et ses éditeurs sont en effet des sortes de bébés ogres.
Donc Claro, vous avez le choix entre manger la chair des enfants des autres ou donner la vôtre à dévorer à vos enfants. C'est pas mal comme...
J'essaie d'imaginer un croisement de pélican et d'ogre et c'est terrifiant.
L'ogre pélican, c'est pas mal comme concept. On va essayer de travailler la question. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Voilà, je sais pas si vous choisirez plutôt l'ogre ou le pélican. Vous êtes plutôt ogre ou plutôt pélican?
Plutôt gerfaux en fait.
Plutôt gerfaux, animal de proie qui fond sur sa victime. Et qui la terrorise comme ça. Bon, bah très bien. Bah on est entre avec des ogres, des gerfaux et des pélicans. Voilà une soirée qui commence bien pour mauvais genre. Regardez-vous, amis auditeurs. Mais en tout cas, pour l'instant, bah écoutez, restez à l'antenne puisque vous allez assister à l'ouverture solennelle de l'encyclopédie pratique des mauvais genres par Dame Céline. Pélican, ogre, vous êtes quoi?
Ah, plutôt araignée dans les suspensions ce soir.
Il manquait plus que ça. Bon, très bien. En tout cas, c'est quelle lettre ce soir?
Eh bien, j'hésite. Ça pourrait être A comme araignée. Sanawa, corde de lin, ça pourrait être K comme Kinbaku, art de ligoter, mais ça pourrait aussi être M comme Munenawa, les seins liés, à moins que ce soit S comme Shibari, noué.
L'art du Shibari ou du Kinbaku, on utilise les deux termes. Provient du Japon, du 15e siècle, où au départ, le bondage, ou le bondage, maintenant je le prononce à la française, était une technique de torture, où il s'agissait de ligoter les voyous, les malfrats, plutôt que de les emprisonner, et de les exposer sur la place publique, de manière à les montrer aux yeux de la population, et ça représentait le supplice le plus honteux et le plus extrême de l'Asie. Ça a perduré jusqu'à l'époque Edo, jusqu'à la fin du 19e siècle, et il y a eu un petit glissement de pratique, car il s'est passé quelque chose de très inattendu pendant les sévices de Kinbaku. Les autorités se sont aperçues que les personnes entraient en état d'extase, qu'il y avait des transes. Donc ils ont étudié d'un peu plus près la question et ils se sont aperçus que le Kinbaku ou le bondage pouvait mettre dans un état qu'aujourd'hui on connaît très bien, on a pu scientifiquement l'étudier, qui s'appelle un état de subspace, qui correspond à un état orgastique, donc avec, je suis sexologue donc je vais me préciser clairement les choses, avec des érections provoquées chez les hommes.
Thank you.
C'est un essai sorti aux éditions de La Musardine dont j'aimerais vous parler ce soir. Il a été écrit par Magali Crozet-Calisto et porte le titre poétique de Théorie érotique des cordes et de l'attachement. Magali Crozet-Calisto, qui est sexologue et psychologue, s'est intéressée à l'engouement pour le bondage, pratique qui a pris un essor particulier il y a 5 ans environ, et notamment à travers la création d'écoles où l'on apprend l'art du ficelage, où j'ai même fait cette interview. Il s'agit de Place des Cordes, une école située à Paris. Alors comment se fait-il que cette pratique jusqu'alors associée au monde plutôt restreint du sadomasochisme, soit aujourd'hui en voie de devenir grand public?
Le bondage vient d'un milieu BDSM. Donc BDSM, c'est bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Il se trouve que la pratique du bondage, pour les puristes, dépend de cette orientation fétichiste et SM. Et puis, petit à petit, il y a eu un glissement vers une esthétisation. Et aujourd'hui, on a les écoles des cordes entre les deux. Et puis, une pratique grand public qui, là, peut s'expliquer notamment avec l'essor de certains films qu'on a pu voir sur les écrans dernièrement, qui pratiquent tout ce qui est la constriction, les cordes, les menottes, etc. Donc, c'est un SM soft, notamment les 50 nuances de Grey.
Et alors, quel public s'intéresse à cette pratique ?
Alors, au départ, un public d'initiés, confinés, souterrains, underground. Et aujourd'hui, eh bien, un peu tout le monde commence à s'y mettre. Pour des jeux érotiques, de temps en temps, pour plaisanter, parfois. Et puis aussi, parfois, pour essayer de trouver une activité pour apprendre le tissage et le nouage sur le corps d'un partenaire. Comme une autre activité sportive, par exemple. Moi, je suis arrivée à cette conclusion que finalement, le bondage est une forme de langage. Finalement, il part en quête des liens perdus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société sans fil, un monde sans fil. Le téléphone n'a plus de fil, nous sommes sur Internet en permanence avec le Wi-Fi, etc. Et le bondage est l'art des nœuds et l'art du fil aussi. Donc c'est en fait une poétique du fil qui va restaurer un lien, restaurer des liens perdus entre deux personnes, dans un cadre ludique, dans un cadre esthétique, et au niveau de la sexualité, dans un cadre très particulier qui sort du cadre traditionnel, puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel lors des séances de bondage. C'est une pratique dégénitalisée, donc qui va convoiter d'autres choses que ce qu'on appelle les zones sexuelles primaires, vulve, vagin, pénis, pour au contraire érotiser d'autres parties du corps, comme un sein, une cuisse, les poignets, les chevilles, etc. Donc c'est une sexualité décalée, sublimée, érotisée, une érotisation du corps. Et puis, un langage, dans le sens où le maître représente l'émetteur du message, et puis le modèle, le récepteur.
Théorie érotique des cordes et de l'attachement, c'est donc un essai de Magali Crozet-Calisto qui est sorti dans la collection L'attrape-corps de la Musardine, soit 190 pages qui racontent l'art du ficelage à travers des interviews en club spécialisé, écoles d'apprentissage et soirées privées, et des analyses aussi bien littéraires, historiques que sexologiques et esthétiques.
Merci Céline pour cette entrée. Bondage, alors on peut le dire.
On peut dire B comme bondage.
B comme bondage. De l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Claro, vous êtes sensible à cet univers du lien, du...
Oui, oui. Moi,
cette renaissance du lien.
Je suis très attaché à ma femme. Voilà. Okay. On peut le dire comme ça.
Et sur cette conception justement du bondage qui restaure le lien, la ficelle, les attachements et le fil dans un monde où le filaire va disparaître.
Ce que disait tout à l'heure en off Paco, c'est qu'on rêve aussi d'amour non filaire.
Bondage sans fil.
Paco,
c'est une pratique révolutionnaire.
Paco, moi aussi, vous êtes sur la question du bondage.
je risque d'être très mauvais interlocuteur.
Voilà, par contre, Sixtine,
je m'en mêle en général. Qu'on en a parlé
voilà, on avait fait une émission ensemble sur Araki.
Oui,
voilà.
On avait reçu aussi, on avait appelé Aizen au micro, une praticienne.
Voilà, une praticienne, on a fait.
In vivo.
In vivo et in actu. Donc, sur le bondage, le livre paraît, je le rappelle, aux éditions La Musardine. Mais maintenant, nous allons quitter cet univers du donjon et du bondage pour nous retourner vers celui de Claro.
Chances to meet the freedom of your life's reality. You must remember this could be your last of chances to see.
Steven O'Neill par Immel en ouverture de cette playlist de mauvais genre ce soir, bien évidemment conçue et dirigée par Laurent Polleret. Je rappelle que nous recevons Claro pour son roman Hors du charnier natal, paru chez Inculte et pour deux traductions, Animal Machine d'Eleni Sikelianos et puis Jason Rivnak, La Maison des Épreuves, c'est aux éditions de l'Ogre. Alors, Paco Mtielman, présentez-nous Claro. C'est vrai que c'est une tradition maison, on demande toujours une présentation amicale par quelqu'un qui connaît particulièrement bien l'invité. Alors, faites une présentation amicale.
Alors, Claro...
Ou inamicale, une option envisageable.
Quelle drôle d'idée. Claro a écrit entre 15 et 20 livres fiction, romanesque et poétique. À ce jour, les plus importantes ont été Cosmos, Tous les diamants du ciel. Et c'est des romans qui retracent l'histoire du XXe siècle, d'une certaine façon, qui traversent à la fois au niveau des événements historiques, mais aussi de figures mythiques, puisque Cosmos, c'est aussi une réécriture du Magicien d'Oz. Et c'est des livres qui sont, on va dire, des livres qui ouvrent la possibilité d'une relecture, mais d'une relecture, c'est très curieux ce que fait Claro, hein. C'est-à-dire que on le voit dans Hors du charnier natal, c'est-à-dire qu'on part sur quelque chose. Et l'idée, c'est quand même qu'on sait, on doit deviner qu'on va vraiment arriver à l'autre total du point de départ. C'est-à-dire que c'est toujours des textes qui sont en mutation, en métamorphose, et non seulement au niveau de la narration, mais aussi au niveau de l'écriture et au niveau des personnages. Et donc à tous les niveaux, on est dans une espèce d'étrangeté progressive du lecteur par rapport à ce qu'il est en train de lire. Donc c'est difficile de trouver des, on va dire, des correspondances entre ce que fait Claro et ce que font d'autres écrivains. Donc, ce sera un truc très mixte.
Là, sur unique Orbe, voilà. D'écrivain de Claro. Ouais. Parce qu'en effet, quand on voit votre parcours, Claro, toutes les activités qui sont celles liées à l'écriture et à la littérature, vous les avez pratiquées. Vous avez été correcteur, vous êtes co-éditeur, vous êtes romancier-poète, vous êtes critique littéraire et vous êtes traducteur. Donc, il y a véritablement toutes les facettes sont là. Comment les choses se sont-elles engrenées? Quelle a été l'activité première, ou est-ce qu'elles étaient toutes là dès le départ? Parce qu'avec un parcours aussi dense, aussi riche, aussi diversifié, il faut quand même qu'il y ait un peu une logique dans tout cela. Y en a-t-il une d'ailleurs?
Oui, la logique, c'est d'essayer à peu près tous les métiers qui ne rapportent pas. Et dans l'édition, il y en a plein, donc c'est pour ça que j'en ai fait pas mal. Donc la première activité, évidemment, c'est l'écriture. Ça a commencé par l'écriture. Et après, je pense que c'est la correction qui est venue. Et puis après, de fil en aiguille, on m'a proposé une traduction un jour, donc j'en avais jamais faite.
Traduisez de l'anglais uniquement.
Ouais, de l'anglais. Et plutôt les Américains. Je fais très très peu de britanniques. Enfin, la seule exception que j'ai faite, c'était pour Margaret Thatcher, mais c'est une histoire d'amour.
N'est pas dissible. C'est le fort interne. C'est la vie privée.
Voilà, c'est une question de conviction personnelle. Et voilà. Et en fait, c'est une façon de s'apercevoir que c'est des modalités de l'écriture. C'est-à-dire que traduire, c'est écrire. Hein, écrire, c'est écrire. Alors, corriger, c'est pas écrire, mais bon, ça permet d'avoir une pratique de la lecture un peu décalée, différente. Et voilà, et l'édition. Je suis pas éditeur, parce que éditeur, pour moi, c'est
président au destiné de la collection Lo 49.
Voilà, c'est plutôt directeur de collection.
Arnaud Hofmarcher, oui, j'appelle ça éditeur.
Voilà, un éditeur, pour moi, c'est plus quelqu'un qui prend des risques financiers, alors que directeur de collection, c'est quelqu'un qui fait courir les risques financiers aux autres.
C'est vous le tentateur.
Voilà, avec un certain succès.
La traduction que vous avez pratiquée, vous êtes associé à pas mal d'auteurs importants, notamment Volman et Pynchon. Là aussi, c'est des auteurs qu'on vous a proposés ou que vous avez déjà détectés avant en texte original et que vous vous battez par le pavé parisien pour dire génie, ralentir génie à traduire d'urgence.
Bon, je suis pas sûr, en plus qu'on découvre des auteurs étrangers puisqu'ils sont déjà publiés à l'étranger, donc quelqu'un a fait le boulot de découverte avant nous. Mais
en France, on met souvent 20-25 ans pour franchir l'Atlantique.
Hein, voilà, parce qu'on réfléchit beaucoup. Voilà. Volman, ça a été long parce que d'abord, j'avais aucune expérience de l'édition, donc je ne savais pas du tout comment on impose un texte. Donc j'ai mis, je crois, 5-6 ans avant de convaincre un éditeur qui était à l'époque bourgeois, grâce à Brice Mathieu-Saint qui s'occupait d'une collection qui s'est intéressée à Volman et on a pu le faire. Bon, Pynchon, il existait bien avant moi, mais c'est vrai que je rêvais de le traduire et Denis Roche m'avait plus ou moins promis qu'un jour je pourrais le traduire et j'attendais d'être prêt. Et ce qui s'est passé une première fois pour Maison et Dixon, que j'ai traduit d'ailleurs avec Brice, une expérience de traduction à quatre mains ou deux pieds, je sais pas. Et voilà, et après il y a eu d'autres Pynchon, il y a eu Contre-jour. Et puis maintenant, c'est Nicolas Richard qui s'en occupe.
Et dans une journée de Claro, comment se répartit, je dirais, les types de claviers? Le clavier de la traduction, le clavier du roman, le clavier du blog, comment les choses s'organisent-elles?
En général, je commence plutôt par le blog, qui est une espèce de...
Qui s'appelle le clavier cannibale, on retrouve l'ogre, voilà.
Ouais, le clavier cannibale, c'est vrai qu'il y a de l'anthropophage là-dedans, parce que c'est une façon pour moi de rendre compte des lectures en cours et d'en laisser une trace, et puis c'est une espèce d'exercice un petit peu comme ça le matin, ça dégourdit les doigts et le cerveau. Et après, en général, comme je suis quand même très très sérieux et studieux, je commence par la traduction. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux, je sais pas, disjoncter, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, je peux m'arrêter en plein milieu d'une traduction parce que du coup, ça a dû peut-être dérouiller ou décoincer quelque chose par rapport à l'écriture, et donc j'ai envie de tout de suite retourner, donc d'ouvrir les fichiers, quoi. Et pour ça, l'ordinateur est bien parce qu'il vous met tout en face et il y a qu'à ouvrir tel fichier.
Vous pouvez passer d'un écran à l'autre ou d'un fichier à l'autre, le fichier.
Oui, parce
roman,
que comme c'est vraiment deux activités, traduire, c'est quand même écrire en français en permanence, donc il y a très peu de différence entre les deux activités.
Et l'éthique du traducteur, je dirais, est-ce qu'elle est celle de l'écrivain aussi? Est-ce que vous cherchez à participer justement donc en écrivain à vos traductions, ou vous arrivez vraiment à faire une séparation entre les deux?
Je pense que la première chose qui se passe quand on fait une traduction, c'est d'être sûr d'être dans le tempo du livre. Moi, c'est voilà, il y a des livres que je peux très bien les aimer, Mais je vois à l'essai, parce qu'il faut toujours faire un essai avant, que j'arrive pas à trouver la voie. Alors je sais que je pourrais quand même y arriver à faire le livre, mais ça serait long, ça serait laborieux, le livre n'y gagnerait pas forcément, et moi non plus. Donc je me lance vraiment dans une écriture de traduction que quand je suis sûr d'avoir la vitesse, que j'imagine être la même vitesse peut-être à laquelle le livre s'est écrit pour... Parce que si on n'a pas, il suffit pas du dictionnaire, ça sert à rien. Si on n'a pas tout de suite la tessiture, la texture, la voix,
le grain de la voix,
on va pas y arriver. Donc il faut pas se tromper là-dessus. Après, ce que j'essaye de faire également, c'est de, mais ça c'est délicat, c'est de pas imposer peut-être ce qu'on pourrait appeler des tics de langage ou des, et on en a forcément. C'est pour ça que je trouve intéressant de pas traduire tout du même auteur. J'ai fait pas mal de Volman, mais je suis content de l'avoir laissé à d'autres gens. Pareil pour Pynchon, parce qu'au bout d'un moment, sinon, tout traducteur sait qu'il a, mine de rien, il a pas un lexique réduit, mais bon, il a tendance à toujours faire un peu les mêmes choix. Donc c'est et donc évidemment dans l'écriture c'est pareil, il faut faire très attention à pas se parodier.
Oui.
Et c'est pas complètement. Et oui, c'est pas du tout ce que vous faites. En tout cas, hors du Charlie Natal, ce qu'on a très étonnant au niveau de l'écriture, en tout cas de la lecture, de la réception qu'on va en faire, c'est qu'on est face à un livre qui se donne à la fois comme le récit. D'un anthropologue qui a vraiment existé, qui est Nikolaï Miklucho-Maklaï, et en dessous commence à s'écrire, mais dès le début, le récit du narrateur, qui est comme un récit autobiographique, qui parasite le récit originel. Et là, bon, moi ça m'a fait penser un peu à deux genres d'écrivains très différents, l'un qui appartient pleinement au panthéon de Claro, qui est Beckett, pour la trilogie Molloy, Malone, Meur, l'innommable, où on a très souvent dans ces livres de Beckett tentative de commencer un récit et puis le narrateur veut pas, quoi. Enfin, il rechigne à avancer dans son écriture. Et un autre auteur qui, à ma connaissance, fait pas partie de votre panthéon, mais auquel ce roman m'a fait vraiment penser, qui est Nabokov, pour différents romans qui sont des sortes de tentatives de biographie d'auteur ou de biographie d'écrivain ou d'autobiographie d'écrivain. De la vraie vie de Sébastien Knight à Regarde les Arlequins, en passant par Le Don, Feu pâle. On a à chaque fois l'idée d'approcher cette matière-là, mais qui est une matière qui est un chausse-trappe. Quoi, en fait. C'est-à-dire que le lecteur qui rentre dedans doit savoir qu'il va rentrer comme dans une maison hantée avec des... donc l'écriture fait la même chose.
Claro, Beckett, Nabokov, maison hantée.
C'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est deux écrivains qui sont passés comme ça d'une langue à l'autre, qui se sont même traduit. Enfin,
oui, absolument.
Donc c'est peut-être quand des écrivains sont à cheval comme ça sur deux langues, peut-être ça peut nourrir justement c'est pas des pulsions destructrices, mais des résistances en tout cas par rapport à la narration. Alors je sais pas, il faudrait fouiller la question, mais oui, il y a peut-être un rapport. Enfin moi je suis pas entre deux langues, mais via la traduction je le suis quand même d'une certaine façon.
Sixtine Audebert.
Si c'est des résistances, au moins une réflexion métalittéraire, disons sur l'écriture en train de s'écrire, sur le processus même de l'écriture.
Oui, parce qu'en fait. Je pense qu'on peut, à l'intérieur d'un livre, réfléchir sur son propre fonctionnement, sans pour autant briser le sortilège qui est le pacte de lecture,
le pacte qu'on passe avec le lecteur.
Au contraire, moi j'aime bien cette idée qu'on peut à un moment interpeller via divers artifices le lecteur, lui montrer qu'il est en train de faire l'acte de lire, que ce qui est devant lui sont des phrases qui peuvent le manipuler, et cette idée que ce jeu avec le lecteur n'est pas quelque chose qui va le faire se retirer du phénomène de la lecture. Au contraire, c'est plus pour qu'il s'approche encore plus du texte.
Claro, ce soir, l'invité de Mauvais Genre pour Hors du Charnier Natal.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Agua Celeste de Roré Reyes, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist aventureuse de ce soir. Alors Claro, hors du charnier natal, d'abord c'est le fragment d'un vers de José Maria de Heredia, les conquérants. Hors du charnier natal, Isalet, vous pouvez nous réciter au moins le vers ou les...
Eh ben, pendant toute l'écriture du livre, quand j'ai eu le titre, j'ai essayé d'apprendre ce poème dont presque tout le monde connaît le premier vers, et voilà, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a un âge où on ne retient plus rien. Quoi.
On demandera Christophe Beer, qui connaît par cœur le poème, étant fan des Parnassiens de Heredia et de Le Comte de Lille. Alors effectivement, comme l'a dit Pacôme, c'est un roman qui va sur, j'ose pas dire deux rails, mais qui suit deux sillages un peu. D'une part, c'est une biographie romanesque d'un explorateur du 19e siècle, le russe Nikolaï Miklouko-Maklaï, qui s'est intéressé à la Nouvelle-Guinée et qui a laissé une belle figure d'explorateur, d'ailleurs, puisqu'il était plutôt en dialogue et en échange et en acculturation avec les peuples qu'il allait rencontrer. Donc c'est plutôt quelqu'un qui aujourd'hui nous séduit. C'était pas un explorateur de type traditionnel et en tout cas d'Épinal. Donc ce personnage-là. Et à côté, effectivement, il y a un autre récit qui est une sorte de commentaire du premier. D'un côté, vous nous racontez superbement la vie de cet explorateur russe. Et puis à côté, il y a comme une sorte de démon ou de chimère perché sur votre épaule qui n'arrête pas de vous dire « Oui, mais alors là, tu nous fais le coup de la description de la forêt équatoriale. Là, inévitablement, les lianes sont là. Bien évidemment, la sueur, ceci, cela. » Alors, effectivement, là, il y a une sorte de... Il y a comme s'il y avait un corbeau sur votre épaule ou un démon derrière vous. Claro.
Ouais, j'essaie d'imaginer un corbeau sur un pélican, mais ça...
Ah oui, non, ça devient compliqué. On va y arriver.
Non, mais ce qui est possible, c'est que le démon soit en fait plutôt ce Nikolaï, soit plus et sa vie en tant que et que le démon c'est le sujet et le livre est un peu une tentative, un essai de résistance contre cette dictature du sujet qui fait que on le voit dans les parutions de plus en plus on choisit comme ça une vie ou un segment de vie, hein. Un biopic peut être resserré sur quelques mois, on prend un personnage qui est plus ou moins connu, il peut être un peu obscur aussi des fois, ça peut servir et voilà, et on raconte, alors on peut faire la digression, etc. Ça ne garantit pas qu'on fait ni un mauvais livre, ni un bon livre. Mais en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, enfin le risque qu'on prend, donc, c'est de laisser le sujet faire le travail à la place de l'écrivain, puisque voilà, si on prend un destin un petit peu incroyable, voilà, on peut prendre, je sais pas, la vie de Pasteur,
de Marie Curie,
ou la vie d'un boxeur, d'un aviateur. Il y a toujours des choses un peu incroyables et donc le plan naît très facilement de la lecture. Il suffit de remettre à plat. Et moi, ça me gêne pas, hein, ces livres-là, parce que c'est, une fois de plus, ça dépend de ce qu'on en fait, mais c'est cette idée qu'il faut se méfier du sujet. Parce que non seulement le sujet amène avec lui déjà peut-être la structure du livre, enfin en tout cas ses matériaux, il les amène tout fait, mais en plus il amène avec lui son langage. Voilà, on parlait de la jungle, etc. Dès qu'on commence à vouloir faire de la description, ben on s'aperçoit que les choses qui sont toutes prêtes dans le cerveau et qu'on peut faire des lieux communs assez facilement. Et puis pareil pour les sensations avec le lecteur, c'est-à-dire que si vous racontez la vie de quelqu'un, je sais pas, d'un comique, vous avez pas mal de chances d'arriver à faire un livre qui est drôle. Et puis si vous racontez,
c'est conseillé.
Voilà, parce que le sujet est drôle.
Cela dit, Fatih Arbuckle, oui.
Ah oui, voilà. Je comprends, en fait.
Et si le sujet est triste, et ben voilà, vous avez un livre qui va être grave et qui va être triste, mais c'est pas vous. C'est pas votre phrase qui a fait l'effet.
Excusez-moi, c'est vachement intéressant parce que c'était un truc qui m'avait troublé avec cette accumulation de films biopiques et de livres biopiques. Et là, vous arrivez à mettre les mots dessus, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet fait la moitié du boulot.
Plus
de la moitié. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus si on aime le livre ou si on aime le sujet.
Voilà.
Et là, pour le coup, on est dans une opération complètement autre. Thank you.
Prends le temps. Murmure en moi l'ersatz de narrateur soucieux de ne pas trop bâcler ce décor, pourtant plus vite planté ici qu'un simple bulbe. Soigne, décore, embaume ou aère, décrit l'âcre et peint la mer, aménage des marges, coiffe les têtes, fait tourner les têtes, tranche les têtes, pinaille, protège, vérifie les ourlets, souligne l'horizon, atténue les reliefs, renforce les perspectives. Ici, une pincée de joie, là, un soupçon d'inquiétude. Plisse les tentures, rapproche les sièges, commente sans commenter. Retape, répare, distille de l'allusif, insère. Une échappée travaille la voix, brosse la diction, rajoute de l'âme. Glisse un indice, forge, tord, lamine, dit, redit, fin de négliger, parsème, verse, retranche. Tu tiens le bon bout, le bon, le brave bout de bon gras. Ne gâte rien, ne précipite rien. Fais pâture d'un rien, plutôt. Ce sourcil, si bien haussé, donne-lui sa chance. Qu'il exprime, qu'il réprime, mais qu'il fasse quelque chose, non pas qu'elle en potée. Et sous le crâne, n'importe quel crâne, quel carabe, quel creux cadavre, que ça brasse, que ça chahute, qu'on entende clapoter de l'intention et pourquoi pas quelques hésitations. Assez. Quittons les cavernes de l'être où tout n'est que carton. Caverne de l'être où tout n'est que carton, ça veut dire que tout est procédé, tout est construction, tout est invention, Claro ?
Alors déjà, la phrase « quittons les cavernes de l'être », c'est un emprunt à Artaud. Et le carton, bah, le carton c'est quand même ce contre quoi l'écrivain doit un petit peu se battre, quoi, le personnage de carton, encore que c'est pas très gênant, les personnages de carton, ça peut être drôle, mais en revanche, la langue de carton, c'est plus embêtant quand ça devient pâteux.
Pas comme tellement.
Mais là, le sujet, en fait, est pas du tout indifférent, parce que, quand même, vous avez pris une figure qui est une figure du devenir. Puisque ce qui est intéressant avec cet anthropologue, c'est qu'il est parti vers une transformation de son être dedans. Transformation de son être, qui est aussi la question du narrateur tout le long du livre. Et la question du livre, en fait. C'est-à-dire que le livre, en fait, le livre épouse le sujet. Donc, c'est, d'une certaine façon, c'est même si c'est un livre qui répond à la mode des biopics, il en fait une à l'octave.
Le livre n'est pas un acte d'accusation comme ça. Et c'est une histoire que je tiens à raconter, voilà. Mais je tiens à la raconter en m'interrogeant pourquoi. Ce que je dis moi qui suis plutôt un assis, hein, quelqu'un qui a son bureau toute la journée. Pourquoi je m'intéresse justement à quelqu'un qui est tout à fait à l'opposé, qui va au bout du monde comme ça à une époque où ça se faisait. Pas trop, enfin tout le monde pense qu'il est fou, etc. Et donc après, ma question, c'est pas uniquement pourquoi moi je m'intéresse à ce type, c'est pourquoi mon écriture s'intéresse à la façon dont on peut raconter une vie. Qu'est-ce que mon écriture peut y trouver et qu'est-ce que ça va chambouler quand je vais un peu tirer sur les cordes.
Oui, c'est en quoi ce sujet va influer sur votre écriture, c'est ça justement. En quoi
voilà, est-ce qu'il peut rentrer, quels instruments il faut pour le faire rentrer ou pour le faire sortir.
C'est qu'il nous le berne.
Non, parce que ce dont vous parliez tout à l'heure, le carton et entre autres les stéréotypes, la jungle qui surgissent naturellement, c'est des horizons d'attente de l'écriture dans le genre. Mais en l'occurrence, ce que vous cherchez, c'est effectivement chercher une expansion de votre propre écriture et conquérir un terrain qui est votre langue et donc dire votre identité à travers l'écriture.
Alors, si c'est de l'exploration aussi, ça.
C'est d'essayer de faire fuir, à plein de sens du terme, le sujet, hein, de tracer des lignes de fuite à partir de ça. Après, je dirais pas que c'est pour réinstaller dans cette vacance ou cette faille quelque chose qui serait de l'ordre de l'identité.
Puisque disons l'autorialité, alors, en fait, votre être
oui,
auteur.
Oui, mais dans le livre, elle est assez
chausse trapée, si on peut dire, puisqu'on peut croire à un moment que le narrateur est l'auteur, voire la personne qui signe le livre. Et puis on peut aussi très bien avoir des doutes quant aux bribes de vécu qui sont données, parce que il y a pas de pacte d'autofiction vraiment qui a été passé avec le lecteur. Merci. Et tout est possible. Il y a du doute. Il y a un doute très fort. Donc c'est aussi une façon d'aller contre l'idée de. C'est pas une idée, mais contre l'autofiction qui est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est son propre sujet. Et puis il suffit de déballer. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a qu'à lire Annie Ernaux pour voir à quel point. C'est une aventure de langue, hein, quand on veut vraiment faire de l'autofiction.
Tout écrivain est un explorateur dont on se doit de mettre en cause le témoignage, c'est un peu ça.
Absolument.
Oui, c'est une sorte d'autofiction confidence man.
Le vent éteint ma lampe, la moisissure s'attaque à mes vêtements, les moustiques me harcèlent, les guêpes me piquent, les fourmis dévorent ma collection de papillons, les chiens mangent les rares oiseaux que j'abats, des séismes font tomber les livres de mes étagères, des orages endommagent mes affaires, les éclairs qui sabrent de partout surlignent d'un éclat bleuâtre la moindre feuille, et au matin, la beauté règne, indivise. Tout ce qui bouleverse mon monde en rehausse les contours. Les calamités imprègnent le paysage d'une gloire inédite. Mes mots font de moi un Nicolai, et de ce Nicolai renaît chaque matin un savant qui cherche dans la décomposition de la matière et l'épuration des formes la clé du dynamisme originel.
Voilà un extrait de Hors du charnier natal de Claro, notre invité ce soir dans Mauvais Genre. Pourquoi avoir choisi Nicolai Makoko?
Il y a une réponse à tout, bien sûr. En fait, j'étais tombé un petit peu par hasard sur sa vie quand je faisais des recherches pour un précédent livre qui s'appelle Crash Test. Et où j'avais envie
que j'ai là, qu'il faut lire, au siècle sud.
Voilà. Et j'avais envie de. À l'époque, je tournais autour de l'idée du cargo culte. On va pas entrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais donc voilà. À travers ce thème du cargo culte, j'étais tombé sur Nicolai. Mais ce diable de Nicolai refusait de rentrer dans le Crash Test. Et voilà, c'était une proposition que je lui avais faite, mais ça ne l'a pas intéressé. Donc du coup, je suis resté longtemps avec des petits bouts de texte comme ça que j'avais écrit sur lui. Et j'ai même eu un moment la tentation de me dire, mais fais un petit bijou ciselé comme les gens en aiment tant, et raconte cette vie-là. Et puis, on peut signer même sous un autre nom si la chose fait honte. Et je me suis dit, j'arrive pas à faire ce choix qui, en plus, ça se trouve, serait rentable. Donc le livre est aussi est une façon de. Enfin, peut-être tous les livres sont. On pourrait dire ça de tous les livres de parler d'un matériau qu'on se trimballe. Quand est-ce qu'on le prend? Quand est-ce qu'on l'abandonne? Quand est-ce qu'on le retourne? Etc.
Hors du charnier natal de Claro, chien inculte, à la fois une vie d'explorateur et les aventures donc de Nicolai Mikluko Maklai, et en même temps une réflexion sur l'art de narrer et l'art d'écrire, surtout la vie d'un explorateur.
Wir lieben unser Leben kind, einmal als Gast. Du leitest uns mit blinden Augen.
Voilà, comme un vol de Gerfour du charnier natal. C'est pour ça que l'animal avait été choisi totémique en fonction de ce vers donc d'Heredia qui donne le titre de votre roman Claro. Alors nouvelle facette, nouvel espace d'écriture pour vous, Claro. La traduction, on en a donc abondamment parlé, c'est aussi une de vos activités essentielles. Alors parmi les nombreux livres, j'ai regardé votre cadence de production, de traduction, c'est, on dirait, apparemment la filmographie de Bernard Blier. Il y a six titres par an. Non mais on a vraiment, ça donne à penser des fois à des filmographies d'acteurs italiens, d'acteurs français qui tournaient énormément. Et là,
François, si vous regardez les biblios des autres traducteurs, vous apercevrez que c'est pareil en fait.
Donc tout le monde est à la même enseigne.
Tous les traducteurs, pour des tas de raisons qu'on devine, sont obligés de travailler beaucoup, souvent avec des traductions qui se chevauchent. Hein, on peut en faire 3 ou 4 en même temps des fois pour des. Voilà, et que je pense que n'importe quel traducteur fait au moins 3-4 livres par an.
Ah oui, mais
ça dépend de la taille du livre.
Vous faites sont des livres notablement, on va en parler, notablement importants au niveau de la taille, de la complexité, de la densité littéraire.
Ouais, mais c'est pas parce que c'est gros que c'est plus difficile, ou ça demande juste une forme d'endurance.
Alors, c'est pas parce que c'est gros que c'est plus difficile. Voilà un bon exemple. Animal Machine, Sixtine Hautbert, donc de Hellini.
Papa et Bondage, aussi.
Sikelianos, la grecque prodige.
Mais c'est vrai qu'il y a de la matière. C'est aussi une forme de biographie dont on ne sait pas trop si c'est une biographie, pas biographie, pour la simple et bonne raison que c'est une biographie très poétique et qu'on ne pourrait pas dire, disons, romancée, mais plutôt rêvée. On ne suit pas une ligne, disons, narrative linéaire, sans être redondante, mais plutôt une espèce de logique un peu onirique, chaotique, avec des montées d'émotions et des bouffées, comme si on avait sorti une vieille boîte à chaussures pleine de vieux objets, de photos.
C'est un peu le cas, d'ailleurs.
Puisque le livre en soi est un facsimilé, à des facsimilés comme un livre-objet, et ça donne un aspect kitsch. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette écriture d'un livre-émotion qui, en fait, dans le fond, rejoint, en fait, j'ai l'impression, Hors du charnier natal, dans son entreprise.
Alors, on peut préciser pour nos auditeurs, donc Hellini Sikelianos, c'est son deuxième livre familial, entre guillemets. Le précédent, vous l'avez également traduit, c'est sur son père, qui était héroïnomane, et là, c'est sur son extraordinaire grand-mère, qui a quitté en catastrophe, on peut le dire, le monde grec, et pour se réfugier aux États-Unis où elle est devenue une sorte de vedette de ce qu'on appelle là-bas le burlesque, une star du striptease, de femme panthère, de cat people, véritablement, sous le nom, donc, de, je crois, la femme léopard.
Oui. Ce qui est intéressant chez Hellini Sikelianos, c'est que c'est une poète. Toute son œuvre sont des recueils de poèmes, et elle a fait, donc, avec le livre de John, le précédent, et Animal Machine, une espèce de croisement. Elle n'a pas eu envie d'écrire un mémoire, comme disent les Américains, mais de comprenant que son sujet était déjà troué, poreux, lacunaire, mystérieux, elle a voulu construire un objet un peu différent, justement, avec justement des glissements en permanence. Il n'y a pas de narration à proprement parler, ce sont des souvenirs comme ça. Elle constitue peut-être ce qu'on pourrait appeler un album, un scrapbook comme ça, avec des bribes. Hein, c'est le tu me reprendras, pas comme si je me trompe, mais c'est l'expression d'injecta membra. Ouais. C'est un peu Osiris aussi. Comment reconstituer sans chercher à donner une cohérence artificielle, mais justement en laissant, là pour le coup, le sujet s'exprimer dans sa fragmentation et la charge poétique, émotionnelle que lui confère justement cette existence un peu spectrale.
D'autant plus que là, il y a à la fois des manuscrits, des photos. Il y a véritablement, elle a laissé cette espèce de. C'est exactement ça. C'est on trouve par hasard une boîte, on renverse la boîte sur une table, et là apparaissent tout, des tickets de métro, des lettres d'amour, des photos de famille, des photos dont on a déchiré une partie. Enfin, vraiment, elle a conservé. C'est un facteur d'émotion et un facteur érotique, presque affectif. Elle a conservé cette dispersion pour, à la limite, montrer d'abord le fait qu'on ne peut toucher la véritable unité d'une personnalité, et là, pour un peu l'éparpiller, pour mieux l'évoquer, quoi.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, elle prend une figure féminine. Et on sent, peut-être il y a une forme d'héritage, comme ça, sur ce que peut faire une femme dans un monde d'hommes, qui est arrivé jusqu'à Eleni. Il y a peut-être des leçons de vie à retenir, parce que moi, j'étais vraiment très intéressé en lisant le livre d'Eleni, parce que il y a cette figure comme ça de la stripteaseuse, qui était une figure que j'avais un peu travaillée dans un précédent livre, Crash Test. Donc je voyais des ponts. D'ailleurs, il y en a plein d'autres, parce que il y a même Frix qui est dedans, que j'avais dans Cosmos. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Je crois qu'elle parle même du magicien d'Oz. Enfin bref. Et cette figure de la stripteaseuse est intéressante parce que c'est justement un jeu avec le spectateur mâle, mais où il n'y a pas de contact physique. Donc c'est à la fois une femme qui a l'air de faire le jeu de l'homme, mais qui à un moment arrête tout. Voilà, c'est fini. En général, d'ailleurs, le striptease n'est pas complet. Hein. On garde toujours quelques éléments. Enfin bon, sinon la police débarque assez vite.
Bah oui.
Et voilà. Donc c'est une façon aussi, c'est une métaphore d'un certain contrôle quand même que dans cet espace très restreint qu'accorde le mâle, la femme peut arriver à survivre en imposant un cours de frustration à l'homme, ce qui peut ne lui faire que du bien.
Animal Machine, donc, d'Elena Sikelianos, c'est Chèque de Sud, la grecque prodige. Alors, autre type de texte, autre univers, Paco, La Maison des Épreuves, de Jason Rivnak. Oui. Là, c'est beaucoup plus sombre. Là, on est quasiment à la limite du torture porn, comme on dit.
Oui, enfin, c'est un torture porn écrit par André Breton.
C'est voilà, c'est pas son, mais ça y fait penser par instant.
Oui, mais c'est d'un imaginaire poétique hyper puissant. C'est extrêmement étrange. Il n'y a pas le côté réitératif du torture porn.
De quoi s'agit-il?
Mais je vois bien ce que vous voulez dire, parce qu'il y a, quand on rentre dedans, on a l'impression qu'on va aller dans un récit d'horreur. Sans vouloir spoiler le livre, on a une introduction qui est une introduction narrative presque classique, le narrateur apprend la mort d'une fille avec qui il avait l'habitude de faire des jeux étranges quand ils étaient enfants, et il commence à raconter leur jeunesse. Et on a une espèce d'ambiance qui pourrait faire penser, je sais que le libraire Hugues de Charybde a dit que ça faisait penser un peu aux séries télévisées type Buffy et Supernatural et tout ça, mais moi je dirais presque aussi les films d'horreur des années 90 comme Candyman. On rentre dans un univers un peu comme celui-là, anglo-saxon, Toronto, beau lieu de tournage. Mais dès qu'on rentre dans, en fait, l'opération elle-même que va faire le livre, là, c'est extrêmement déstabilisant. C'est-à-dire que après cette introduction-là, on rentre dans le parti pris qui est une sorte de jeu. Mais de jeux très sérieux, de jeux terribles, de jeux effrayants, et qui donne à la lecture en fait un caractère hypnotique, puisqu'on va passer régulièrement du vous au il, et ce qui crée une scansion pour le lecteur, ou le fait rentrer en fait dans des sortes de narrations qui sont des narrations imaginaires, cruelles, oniriques. Pour donner un exemple par rapport à l'impression de lecteur que ça donne, c'est la même différence qu'il y a entre le tonal et le modal dans la musique. C'est-à-dire qu'on dirait, dans le tonal, on a des séquences d'accords, et donc du coup les séquences d'accords rythment, cadrent le morceau sur lequel on a la mélodie, mais la mélodie d'une certaine façon ne peut pas partir très 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 loin parce qu'elle est toujours rattrapée par les accords. Et ça, c'est un parti pris romanesque. Mais quand on est dans le modal, en fait c'est un bourdon continu sur lequel la mélodie peut, elle, par contre, aller dans des endroits complètement inattendus. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a un bourdon. C'est-à-dire que c'est un son, ce livre. La Maison des Épreuves, c'est comme un son sur lequel la narration part, mais part... On retourne jamais en arrière avec ça. On est emporté et on ne sait pas ce qui va rester de nous à la fin.
Claro.
Je constate que le zoo continue avec le bourdon. ouais, c'est un livre qui m'émeut énormément parce que il repose sur une structure qu'on pourrait trouver complètement artificielle, puisque c'est chaque fois le
questionnaire fermé.
Voilà, on expose au lecteur des différentes situations et on lui demande de choisir. Alors évidemment, c'est des faux choix parce que les situations sont tellement étranges que. Mais à la fois, le lecteur sent que oui, il a peut-être un choix à faire s'il veut éviter d'aller dans le mur ou d'aller voilà, parce que c'est un anti-manuel de suicide, hein, ce que j'avais dit une fois à propos de ce livre-là. Et en fait, c'est la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on choisit chaque fois, juste le fait d'avoir le choix. Et le choix permet de rester en éveil. La question du choix est importante puisqu'elle est au cœur du suicide justement. Mais en étant en permanence confronté à la, alors pas des situations compliquées, mais des situations complexes, forcément on travaille à la fois la question de la survie et aussi la question de la lecture, qui est que pourquoi est-ce que j'arrive quand même à lire ce livre comme un roman alors qu'apparemment on me donne des situations. Bon, il y a un univers, comme disait Paco, particulier, hein. Moi, ça me faisait penser à une série qui s'appelle La Caravane de l'étrange, comme ça, qui
est admirable.
On sent qu'il y a des choses cachées. Quoi.
La Maison des épreuves de Jason Rivnak, c'est aux éditions de L'Ogre. Deux chroniques pour terminer, mais cette fois de bande dessinée et exposition visible à Paris. La première, Sixtine Aubert avec vous. Le Golem, hein, le Golem qui a établi ses quartiers d'été au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, donc rue du Temple. Et dont on peut découvrir à quel point il a fasciné aussi bien les rabbins kabbalistes que les dessinateurs de comics, Sixtine.
Tout à fait. Alors on reste effectivement dans la puissance de la langue avec cette exposition. Et la volonté des commissaires, ça va être de traquer en fait dans toute la culture contemporaine les apparitions de ce géant muet. Alors la première salle, donc bien sûr, pose la question de qui est le golem. C'est un peu la salle introductive. Vous avez donc des magnifiques manuscrits de Sefer Yetzirah, donc les livres de la création, où vous pouvez voir les formules écrites qui permettent donc de composer un golem, qui est en fait une figure donc de l'imaginaire occulte juif, vous l'aurez compris, un être d'argile qu'on anime en écrivant le mot Emet sur son front et qu'on tue en enlevant le mot la lettre Aleph, oui, qui signifie après mort. Donc c'est une force sans conscience. Et en fait, on se rend compte en rentrant dans la deuxième salle que même si on voit ces bons manuscrits, on est amené à ressaisir la figure du golem et son sens, principalement à partir des fictions contemporaines, médiatiques et populaires, et notamment les grandes représentations qui sont celles de Gustav Meyer Mehring, ou au cinéma celles de Paul Wegener. Et ensuite, on a deux salles assez thématiques qui sont en fait qui illustrent les variations selon le trait favorisé par l'auteur, soit un héros protecteur, soit un monstre incontrôlable. Et là, on a effectivement les objets très intéressants dont vous parliez, qui sont ces comics américains qui investissent en fait une figure laïcisée du golem qui devient une espèce de super-héros. Et donc, il y a quelque chose, une force presque naïve de cette représentation dans un monde un peu désenchanté, dans le sens de qui a perdu ses grand récit. Enfin, on revient sur le caractère, disons, métapoétique de cette figure, qui évidemment attire les artistes au tempérament romantique. Métapoétique puisqu'en fait, elle incarne la démesure du geste créateur et la transgression sublimée, et qu'elle implique souvent une description du processus de création. Et tout ça introduit à la fin de l'exposition qui fait place au geste tant artistique que technique. Et donc là, on voit à l'origine l'art et la prouesse technologique produisent le même spectacle et le même émerveillement. Et donc c'est notre société qui, disons, a scindé les représentations et tracé une frontière très nette entre l'imaginaire au sens de imaginaire fictionnel et le vrai au sens de réalisme scientifique. Mais là, on voit bien l'interpénétration des discours à la fois scientifiques et aussi, par exemple, de l'imaginaire SF. Et donc on va avoir les travaux, par exemple, de Norbert Wiener. Oui. Le père de la cybernétique, qui reprennent bien sûr
sa discipline
la
sous l'invocation du golem.
Tout à fait. Et ceux, par exemple, du plasticien et roboticien Zaven Paré. Voilà. Et là, c'est des machines surprenantes avec des pompes, des rouages, etc. apparents. Mais bon, je dirais que ces dernières salles sont un peu un essoufflement, un affaiblissement du discours critique, et on retombe un peu dans une fétichisation du sujet.
Voilà donc les golems qui prend aussi bien la forme, je dirais, d'une grosse boule de pâte originelle, appelée à être activée par le souffle créateur, que justement d'un robot dans les dernières formes de sa complexité. Donc c'est vraiment une exposition que je recommande à tous les amateurs de genre, que ce soit fictionnel, métaphysique, mystique ou scientifique, puisque là, le golem, c'est une figure totale. Ça vous tenterait un jour un...
Ah ouais, moi j'ai prévu d'y aller, parce que c'est un sujet qui m'intéresse.
Un golem signé...
Ah ouais, je me verrais bien faire 800 pages sur un golem, oui, sans problème.
Peut-être très bien, ce jour-là, on se reverra sûrement, si même avant d'ailleurs, mais en tout cas, oui, je note que vous avez envisagé la chose. On termine avec vous, Paco, mais donc la dernière production de Jean-Christophe Menu.
Et oui, et là, c'est un livre de texte. Il y a des images pour l'illustrer, mais c'est principalement des textes. Et des textes, c'est Crawl Beach. Alors, les Crawl Beach, c'est en fait des signes. C'est un mot qu'a inventé Franquin pour décrire les sortes de petits tortillons qu'il y a autour des personnages pour exprimer la vitesse, l'excitation, la peur, etc. Et ça, c'est les Crawl Beach. Et en fait, ce livre de Jean-Christophe Menu fait partie de ses grands travaux d'égo-archéologie. Il appelle ça comme ça. Menu a fait ça un peu toute sa vie. C'est-à-dire retourner en arrière et essayer de comprendre la naissance de ses affects, de ses émotions. Et là, il fait un livre qui traverse toute son expérience de lecteur de bande dessinée. C'est-à-dire que ça commence avec les premières bandes dessinées qui l'ont fasciné. Enfin, c'est des Lucky Luke, des images de Lucky Luke, une couverture de Lucky Luke. Et ça va jusqu'à sa première publication, qui est le premier numéro du Lynxatif, donc fin des années 80. Et donc pendant tout le livre, par des blocs de fragments, on rentre dans la perception du jeune homme qui découvre des émotions nouvelles à chaque fois avec des bandes dessinées. Et je crois que c'est un livre comme il n'en a jamais été fait précédemment. C'est-à-dire, je vois pas, en tout cas, il faudrait me compter. Il y a eu des entretiens avec des dessinateurs de bandes dessinées qui ont parlé un peu de bandes dessinées, mais qui écrit leur expérience de lecteur. Et on rentre dans quelque chose qui est d'une très très grande beauté. Je vous le recommande chaudement.
Chaudement. Merci Paco, merci Claro d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Gens. Prochaine traduction, prochain roman, prochain. Il y a le grand œuvre.
Jérusalem d'Alan Moore qui sortira le...
Voilà, donc c'est un énorme travail, 1500 pages. Ça va être l'événement clé de la prochaine rentrée littéraire, août septembre. Ça, préparez-vous, préparez du temps. Préparez-vous, dégagez un moment.
Un an de vacances.
C'est le nouvel Ulysse. C'est l'Ulysse du 21e siècle, après Joyce, Alan Moore, qui sort chez Inculte à la rentrée. C'est extraordinaire. Et évidemment, Mauvais Genre en parlera très abondamment, parce que vraiment, l'événement est tout à fait considérable. Donc, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle les livres évoqués ce soir. Claro Hors du Charnier Natal, chez Inculte. On peut lire, bien évidemment, entre autres textes, Crash Test, chez Actes Sud. Jason Rivenac, La Maison des Épreuves, c'est aux éditions de L'Ogre. Eleni Sikelianos, Animal Machine, la Grecque Prodige, c'est aux éditions Actes Sud. Jean-Christophe Menu, Crawl Beach, c'est aux éditions Les Impressions Nouvelles. Et l'exposition Golem et Visigle au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris jusqu'au 16 juillet. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polrech, Cédric Chatelus, Claire Martin-Dugard, Chloé Leblond, Paco Ntielmont, Sixtine Audebert et François Jolier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain, il sera question d'Asie, puisque nous parlerons de Kyoji Kurosawa et de Ghost in the Shell. D'ici là, bonne soirée à l'écoute de France Culture, dont on ne quitte pas l'antenne, bien évidemment, puisque nous on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique. Bonsoir à tous.